1, 2, 3, 4, 5, 6.
Bonjour à toutes et à tous, c'est Yann avec vous pour l'émission Le Grand Tour. On est ensemble pendant une heure bien remplie puisqu'on pourra entendre une interview de deux des musiciens du groupe Modèle Actrice que vous retrouverez samedi à l'Antipode dans le cadre de Cool Thing numéro 2. Ils répondront à trois questions autour du processus de création, des performances live et puis de ce qu'ils ont envie de laisser comme transmission, comme héritage. Une interview qui a été réalisée par Pierre Maël. Et puis pour débuter l'émission dans un instant, ce seront deux des musiciennes de Atrium, Saïve et Jeanne, qui nous parleront de Watery Grave, leur premier album qui sort à la fin du mois de novembre. Il y a une release party ce jeudi du côté du Café des Champs Libres. Et puis entre ces deux rencontres, eh bien, je parlerai avec les représentants et représentantes d'ailleurs de Braise Beer Session numéro 5, la présidente de l'association Braise Hop qui organise cet événement autour de la bière artisanale et indépendante à l'ex-brasserie Saint-Hélier à Rennes. On parlera aussi avec Xavier, organisateur de l'événement, et puis Florian, cofondateur de Choc Brasserie, qui a un an d'existence et qui est basé à Pont-Réan. Vous savez tout, on commence l'émission avec cet extrait du titre Cargo par Atrium. Vous avez entendu, pas d'extrait du disque d'or de la semaine Panic par Box, on les retrouvera vendredi. Bonne émission. À l'instant, vous entendiez un extrait du premier album du groupe Atrium. Il s'appelle Watery Grey. Il sortira d'ici quelques semaines. Vous aurez l'occasion, eh bien, de participer à une release party, si vous le souhaitez, le 6 novembre. Ce jeudi 6 novembre au Café des Champs Libres. Si vous êtes encore plus fan et téméraire et que vous avez envie d'aller jusqu'à Brest, eh bien ça a lieu aussi ce vendredi au Vauban. On va parler avec Saïve et Jeanne de ce fameux groupe Atrium. Bonjour vous deux.
Salut.
Une première sortie, alors que le groupe il existe depuis un peu de temps quand même maintenant, hein. On va en trouver des traces déjà dans un groupe précédent, Good, Bad and Young. On en parle parlera pas puisque c'est fini depuis bien longtemps. Mais quand même, dans 2023 peut-être, c'est ça le début d'Atrium.
2022, ouais. On s'est retrouvé, à 4 avec Alexis, Ellie, Jeanne et moi, et puis on s'est retrouvé à 5 avec Marie. Par la suite et c'était parti.
C'est ça, elle qui parle, chanteuse d'Atrium. Jeanne chante aussi, joue quelques petites percussions que je mime avec les doigts, comme ça, c'est quoi? Des shakers, comme
des
ça?
Des shakers, petit tambour. Hein.
On va revenir à la présentation parce que tu as cité tout le monde, mais peut-être donner les emplois de chacun, chacune dans Atrium. Jeanne, ça arrive, qui veut?
Allons-y. Eh ben, tout d'abord, tout le monde est chanteur dans Atrium. On a un grand chœur à 5 voix. Qui fait beaucoup de bien, qui défonce un peu. Et puis il y a donc Ellie à la basse, Alexis à la batterie, Marie à la guitare et ses multiples effets de l'espace.
L'espace.
Saïvo et moi, du coup, au chant, et Saïvo à la guitare sur quelques petites exclus.
On les a entendus, hein, les chants à tous sur ce titre Cargo. Il y a vraiment des passages vraiment dédiés complètement à la voix seulement. Est-ce que c'est la voix qui a fait naître Atrium, ce qu'elle a à dire et ce qu'elle a à faire entendre?
Carrément. Alors, je pense que le but d'Atrium au début, c'est une prise de pouvoir pour nous et une ouverture effectivement de la parole qui est aussi en parallèle avec notre parolière qui s'appelle Brittany Hornelle et elle, pour le coup, la prise en main de son crayon, et ben, c'est son combat. Et donc effectivement, Atrium, ça se rejoint autour de ce gros cœur à 5 voix qui est notre combat et notre force.
Cette parolière que vous présentez, hein, dans les documents précis autour d'Atrium, elle est militante et poétesse à la fois, écrivaine et irlandaise tout en même temps. Et il se trouve, Saïf, que tu la connais personnellement.
Et oui, tout à fait. La chair de ma chair, c'est ma petite maman.
Ces textes-là, ils accompagnent le disque d'Atrium dans sa version physique. Il va exister en vinyle, l'album d'Atrium, ou pas encore?
Eh bien, nous verrons ça dans quelques mois.
Et oui, parce voilà. Que du coup, on est un groupe indépendant, comme la plupart des groupes qui viennent ici, je pense.
Ça arrive qu'il y ait des groupes un peu plus sur des labels connus et tout ça, mais non, la plupart du temps, ils sont comme vous. Ouais.
Carrément. En tout cas, on a pris la décision de sortir seulement sur les plateformes et en CD, parce qu'on voulait quand même avoir un objet physique. Et puis, si par mégarde, on arrive à rembourser la production de cette petite pépite pour nous, et ben, on pourra peut-être faire un pressage en vinyle par la suite.
Donc en tout cas, ça sera important, j'imagine, à ce moment-là, que soient imprimées ces paroles, parce qu'elles sont en anglais, hein, toutes. Elles sont poétiques. Un mélange véritablement poélitique, on peut le dire, hein, ce mot-là, il existe, il a déjà été fabriqué. Bon, c'est un peu un nouveau mot, un barbarisme, diront certains, ou un mot valise, diront les plus optimistes, mais en tout cas, il est question du monde dans lequel on vit très précisément, hein, à travers Cargo qu'on écoutait à l'instant, dans Operation Scumbag dans quelques instants aussi, et dans tous les titres en fait. On parle d'un monde qui a pillé pas mal les ancêtres, qui a pas rendu la justice très souvent, notamment auprès des femmes, hein, qui ont réclamé justice longtemps sans être exaucées. Il est vraiment question d'un monde tout à fait pourri, en fait, on peut le dire. Alors, est-ce que justement Atrium veut mettre tout ça en avant et proposer une nouvelle possibilité d'un monde un peu plus juste, on dira?
Carrément. Alors, je pense que au-delà de proposer un monde un peu plus juste, j'ai juste envie de modérer un peu ton propos, parce que justement notre parolière, elle défend ce truc-là aussi. On vit dans un monde absolument terrible et plein de violence et d'injustice, mais on vit aussi dans un monde qui est rempli d'espoir
et d'amour
aussi. Et c'est quelque chose qu'on défend quand même fortement. En tout cas, effectivement, tous les morceaux ont cette dualité de défendre un sujet médiatique extrêmement important et qui prend extrêmement d'ampleur, et des sujets qui sont beaucoup plus terrés. On va dire ça comme ça.
Là, le titre de Cargo, il renvoie directement à l'esclavage et puis à la colonisation. Enfin, si je peux bien comprendre, le Neil on his black neck, all for sugar daddy. Baby, pardon, pas Daddy.
Ça, alors, les deux vont dire.
C'est un autre titre. C'est un lapsus, mais ça collera sur un autre titre, ça, je veux dire, Daddy, peut-être. Bon. En tout cas, oui, là, on parle vraiment de ce sujet précis-là. Comment vous avez fait le choix au sein de Atrium par rapport à ces textes de la parolière que je ne nommerai pas parce que j'ai beaucoup de mal à dire son nom. Il a fallu vraiment se pencher longtemps sur les textes de la parolière pour les choisir ou c'est venu assez naturellement et c'est ça d'ailleurs toi qui as choisi ou c'est en commun? Comment ça s'est passé?
Eh ben en fait ce qui s'est passé c'est que on a un portfolio de textes et en fait je pense que Jeanne tu peux valider quand en fait pendant la composition on choisit toutes les deux un texte sans forcément lire au préalable et après il y a une vibe qui vient
carrément.
Et comment vous partagez les passages chantés, parce que on l'a vu c'est important d'avoir des moments choraux comme ça où toutes et tous se font entendre. C'est là que c'est plus difficile peut-être de choisir comment ils vont être transformés, sortir de leur version poétique sur le papier jusqu'à une version à plusieurs en groupe?
Pas tant que ça. Au final, on se retrouve beaucoup du coup avec Save autour des textes. On fait tourner beaucoup de choses toutes les deux. On essaye de voir, qu'est-ce que toi, ce qui te parle plus, comment on peut le transformer à deux, comment est-ce qu'on peut jouer aussi avec cette matière, avec les mots, avec les directions de phrases, comment on peut s'amuser en fait et entremêler nos voix à fond. C'est un peu ça aussi, Atrium. Dans la composition de ces deux voix lead et après les chœurs c'est souvent à la fin qu'on va les trouver tous ensemble et c'est toujours un moment assez magique où ça fuse et où tout le monde est complètement surexcité et...
On va pas expliquer tous les textes d'Atrium forcément mais au moins j'aimerais qu'on vous m'expliquiez ce titre d'album Watery Grave. J'ai l'impression que ça pourrait être la terre finalement, cette tombe pleine d'eau comme ça, et que c'est peut-être pas ça non plus la vérité.
Pas tout à fait, je pense déjà il y a une première information, c'est que déjà à la fin de nos compositions on se retrouve tous les cinq voire tous les six avec notre parolière pour bien comprendre chacun de quoi est-ce qu'on parle et pour être tous à la même page et ensuite vu qu'on a décidé de faire de rendre visibles ces textes-là dans un livret dans notre album. On a aussi pris la décision de travailler avec un illustrateur qui s'appelle Théo Clarissou pour illustrer ses paroles et justement avoir un autre moyen d'accès pour comprendre de quoi on parle. En tout cas, Watery Grave, c'est un nom d'album qu'on a trouvé dans un autre texte qui ne figure pas dans cet album. Et en fait, quand on a vu ces deux mots ensemble, ça a tout de suite fait tilt parce que on retrouve au sein d'Atrium et au sein de nous deux, de Jeanne et moi, cette dualité de d'eau et de terre et surtout cette dualité d'espoir et de désespoir, je sais pas d'autres mots qui me vient, mais ce truc de on a tous envie de s'enterrer. D'ailleurs Jeanne, tu l'as très bien dit avant qu'on arrive à cette radio, tu parlais de l'automne, j'aimerais bien que tu le redises.
Ouais, tout à fait, bah, c'est un peu la meilleure saison pour sortir cet album parce que l'automne c'est un peu le moment où tout le monde prépare sa petite tombe d'hiver, quoi, son petit cocon, tout le monde s'engouffre dans le désespoir et d'ailleurs ça se voit, tout le monde tire la gueule et c'est terrible. Et en même temps l'automne c'est là où on a encore les derniers rayons du soleil de l'été et puis les feuilles qui deviennent rouges et jaunes et c'est magnifique et donc c'est un peu ça cet album en fait, c'est effectivement cette grande dualité clair-obscur.
Qu'on retrouve d'ailleurs dans la pochette d'album qu'on a fait avec Pauline Bustos qui travaille à Toulouse, qui est une photographe extraordinaire et du coup on a retrouvé sur cette pochette d'album cette dualité de avec Jeanne, on est en fœtus, on est dans cet état le plus primaire et de connexion intense, on est toutes les deux dans une sorte de safe place et en même temps bah, en fait on est dans une tombe et on est dans une eau noire et on est en train de crever quoi.
C'est vrai que cette photo quand moi je l'ai vue et bon voilà, elle est très frappante et elle ne rassure pas totalement quand même. On a l'impression qu'on est juste sur une plage du Finistère après le passage de la Mococadise quoi. Mais en même temps c'est vrai, il y a ce côté vous y êtes bien pendant la photo là.
Ah bah c'était super,
on s'est jamais
super.
Vu d'aussi près.
Ouais, non.
Mais vous êtes quand même dans du ce qui ressemble à du mazout alors que finalement non, c'est bah, petite recette de photographie, comment elle a été faite cette photo là et c'est vous qui en avez eu l'idée à la base ou?
Eh ben on s'est retrouvés tous les cinq pour essayer de trouver quelque chose qui nous rassemblait quoi, et cette idée d'avoir une sorte de liquide noir et crade qui sort surtout de la bouche, ça pouvait mettre en forme en fait, toutes les atrocités qu'on verbalise et donc les rendre vraiment visuelles. Et par ailleurs, si vous regardez les petits clips qu'on a sortis, on retrouve en fait cette matière là où on passe avec Atrium. Et donc cette photo, je sais pas où je vais là. Du coup, ça.
C'était une photo. En fait, on a fait un petit trip jusqu'à Toulouse. Fait, ouais. Et puis on s'est retrouvé donc dans le studio de Pauline avec une piscine multicolore pour enfants. Et donc on était dans un studio, donc il y avait pas d'eau chaude, donc on a versé de l'eau avec un gros vase de l'eau froide. Et puis on s'est mise dedans. Mais au début, en fait, c'était juste pour mettre nos visages. Donc on pendant quelques heures, on était avec juste notre buste dans l'eau en gardant le bas du corps encore chaud. Et puis à un moment donné, vu que la piscine a débordé complètement dans le studio, on s'était dit quitte à être trempé, autant se mettre en entière dedans. Et là, en fait, on s'est mis, on a essayé plein de choses, et puis en fait on a fini par se mettre en fœtus, et puis là c'est parti en vrille, on a fait plein de trucs, c'était super. Et voilà,
vous la verrez, cette photo, hein, elle est déjà en ligne sur la page Facebook du groupe, sur le site aussi, partout,
sur la page Insta, ouais.
Et sur la page Insta, donc voilà, vous allez la voir forcément au moment où on parle, avant, hein, dans quelques heures, la release party au Café des Champs Libres. On discute avec Saïf et Jeanne de Atrium, deux des membres du groupe. Le disque sort le 28 novembre. Vous savez tout? Non, parce qu'on va continuer à discuter avec elles deux juste après. Après quoi? Après qu'on aura entendu un autre titre. Cette fois, c'était pas... c'est le deuxième single qui est sorti, qui nous parle très précisément d'un personnage vivant. Hein, c'est le fils d'Elisabeth, le frère de Charles, le pote d'Epstein. On en reparle juste après. Opération sac à merde, peut-être. On peut le dire comme ça, hein. Scumbag.
We hate them for breaking us up, bring chaos into our lives. Hate them for breaking us up, bring chaos into our lives. Hate them for breaking us up, bring chaos into our lives. Hate them for breaking us up, bring chaos into our lives. Snuck, slut, six, double chin, fat leather skin, royal prince of little manners. But last two potty six, then greeting, how good he looks and come out smiling. Played hide and go seek on the Jeffrey's plane. We don't prefer jeans the same age as the children. Different attitude to the same game of concealed born with intimacy and greasy hair. Perfect face and lying teeth are different when you are rich. And a queen's son's no sex ring here, sir. Just a rich man. Swapping girl like cattle, but that's okay. So suffer's back is lying, always suffer's back is lying. Always, the truth, lying. Always have telling the truth. It always happens. Nobody gives a shit. It always happens. It always happens. And nobody gives a shit. But it always happens.
Flows red. C'était Atrium à l'instant, nos invités aujourd'hui, de des membres du groupe en tout cas, pour nous parler de Watery Grave, premier album. Il sort le 28 novembre, mais vous avez l'occasion de retrouver le groupe en release party ce jeudi 6 novembre avec Cat White, c'est au Café des Champs Libres. Et puis il y aura une autre release, mais au Vauban, cette fois à Brest, avec Waza. On écoutait cette chanson Operation Scumbag. Je le disais tout à l'heure, des textes très précis hein, de votre parolière qui parle d'un passé pas si lointain, l'esclavage par exemple, de la colonisation, et puis aussi eh bien, de ces délires pervers de certains puissants, et parce qu'ils sont puissants, on se croit vraiment tout permis à l'encontre des plus faibles et des plus fragiles. Cette chanson-là, elle peut vous causer des problèmes, elle peut vous causer des ennuis. On s'est un peu parlé de ça un peu en antenne tout à l'heure. Operation Scumbag, vous risquez quoi avec ça ?
Bah, ça dérange forcément des femmes qui se permettent de dénoncer des crimes sexuels sur mineurs comme ça. Et puis effectivement, qui, dans un climat où la justice prend bien son temps et où la justice est très très vague, ça fait peur, ouais. Et ça dérange en fait qu'on parle de ça et qu'on prenne position, effectivement. D'autant que ça parle de cette affaire Epstein, mais pas que, ça parle aussi de Jimmy Savile, qui était un présentateur de la BBC et qui a abusé d'enfants malades dans des hôpitaux. Donc voilà, c'est bien dérangeant comme sujet.
Il y a d'autres faits d'actualité, personnages contemporains qui sont nommés directement ou qui ont juste une couleur qui permet de les reconnaître assez facilement, hein, notamment dans le titre « I can see the stars ». Là, on parle de Trump hein, carrément, d'un petit bonhomme aux cheveux orange, et puis d'un autre Napoléon avec des drones. Alors là, je me demande si ce serait pas Elon Musk. Peut-être bien, peut-être pas. Bon, il n'y a aucun sujet que vous vous êtes refusé. Tout était possible à être traité par Atrium.
Absolument, en fait, on s'est posé la question effectivement sur plusieurs sujets de à quel point on était légitime ou pas de parler notamment par exemple du racisme, étant donné qu'on est tous blanches et blancs dans le projet. Mais en fait, à partir du moment où on s'est dit qu'on faisait tout de notre possible de prendre la place de personne en fait en prenant la parole, et que surtout en fait ouvrir le discours et pouvoir ouvrir nos bouches là-dessus, ben en fait sur tous ces combats qu'on mène notamment au sein d'Atrium, ben en fait c'est un soulagement et c'est un militantisme qu'on doit se permettre. En fait, on est une majorité de femmes et dans le groupe, et en fait on en a marre de qu'on nous dise qu'il faut parler moins fort ou qu'on n'a pas le droit d'être en colère, parce qu'en fait on est hyper en colère et qu'il y a un feu qui brûle extrêmement fort en nous, et que les gens que ça dérange qu'on parle de la traite des femmes, de la traite négrière, en fait de n'importe quelle communauté en minorité qui se fait déglinguer la tronche parce que pour X ou Y raison de pas pouvoir en parler, en fait c'est n'importe quoi. Et en fait juste si ça les dérange, bah j'espère qu'ils s'accrochent, parce que c'est que le premier album et que on a plein d'autres projets et plein d'autres idées en cours.
Et plus que jamais hein, je pense on a eu besoin de discours francs, directs sur ces problématiques là, parce que l'époque est pas super quand même hein, malgré le fait que oui il y a du bonheur de l'amour dans le monde aussi, mais vous appuyez plutôt là où ça fait mal forcément, ouais. Je suppose. On a parlé de Watery Grave, le nom de l'album. Je reste un peu sur le vocabulaire, parce qu'il est important chez vous, très précis et très important, d'où le nom du groupe en fait. Et je veux bien que vous reveniez justement à ce choix et à cette pièce centrale dans les habitations romaines où il se passait des choses.
Carrément. L'Atrium, c'était donc cette pièce centrale effectivement dans les maisons romaines où on accueillait les hôtes et les visiteurs. Donc il y a cette notion vraiment d'accueil et de bienvenue en fait, d'accueillir ces gens dans un espace où c'est aussi l'endroit où on discutait de philosophie et de politique, dans cette charmante époque.
Oui, parce que qui parlait politique finalement, peut-être plus les hommes que les femmes.
Eh bah, ben, c'est dur. Tout à fait. Et donc voilà, donc on se le réapproprie aujourd'hui cette notion d'Atrium, et puis il y a cette histoire aussi de fondation forte et qui bouge pas en fait, qui sont là et donc qu'on retrouve dans les paroles et entre nous dans nos présences et dans nos nos discours et nos caractères sur scène.
La musique d'Atrium, finalement, même si les constructions peuvent être complexes au sein d'un morceau, elle est naturelle et directe, en fait. Elle pourrait se jouer sans utiliser quoi que ce soit d'autre qu'une guitare et des voix.
Par exemple, ouais.
Et des percussions tout à fait organiques.
Tout à fait.
Et pourtant, vous insistez bien aussi sur le côté électrique de la chose en live. C'est quoi cette dualité-là, en fait ? C'est, on peut faire moins, mais ça sera aussi fort.
Et ben, c'est cette dualité terre-eau entre une musique très brute qu'on retrouve notamment dans ce qu'on se définit par folk et rock, et aussi cette toute cette matière vraiment très organique et du coup très vivante de par les effets notamment de Marie et parfois de Lee aussi avec leur pédale d'effet basse-guitare. Et donc ouais, vraiment l'idée d'avoir quelque chose de vivant, en fait, qui prend de la place, qui crée plein de petits interstices et qui amène à des paysages aussi sonores.
Le travail que vous avez initié sur l'enregistrement de l'album avec Amaury Sauvé, est-ce que vous pouvez revenir là-dessus, peut-être pour aller vers la fin de cette discussion, parce que j'ai l'impression que c'est une personne qui pourrait être créditée aussi bien que les musiciens et musiciennes d'Atrium.
Oh oui, 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 tout à fait. Amaury Sauvé, dans son super studio, Diapiari Studio, ça a été une rencontre tout à fait magique pour Atrium, parce que du coup, on l'a rencontré... on s'est dit qu'on allait bosser avec lui et en fait on s'est retrouvé à décortiquer tous nos morceaux et à comprendre d'une autre manière quelle musique est-ce qu'on fait et à essayer de l'interpréter avec le plus de trip et le plus d'énergie qu'on a, et ça c'est, je pense, en grande partie grâce à Amaury. En fait, il nous a fait nous connecter davantage et on pensait qu'on était très très connectés, et après on a rencontré Amaury et là on s'est dit waouh, fusion. En tout cas, le travail d'Amaury par son travail au préalable de l'album et par son mixage et sa patte artistique sur le mix et l'album
est d'une justesse extraordinaire, ah bah. D'une justesse et d'une humanité aussi. Qu'il a mis son humanité aussi dans le projet, et donc ça a fait résonner quelque chose de vraiment d'extrêmement fort. Et tous ces mots, justement, qu'on retrouvait de questions de terre, d'eau, de clair-obscur, c'est des choses qu'on a vraiment décortiquées avec lui. Et en fait, c'est trop magique de pouvoir sortir un objet qui a été vraiment décortiqué et on a creusé dans les profondeurs, oui, de chacun d'entre nous et du projet tous ensemble, ouais, sur cette grande période confinée dans son studio où on voyait très peu la lumière du jour.
Donc merci Amaury.
Ouais, c'était merveilleux.
L'album Watery Grave d'Atrium sort le 28 novembre. On va écouter un dernier titre aujourd'hui. Je vous demanderai de m'en parler un petit peu de ce Coffin Fish. Pete exclu, merci à vous. Avant ça, quand même, parler des autres amis qui vous accompagneront pour ces deux dates de release, ce jeudi au Café des Champs Libres et puis vendredi au Vauban. C'est des très très proches d'Atrium qui vous accompagneront ces jours-là.
Alors, il y a Cat White, effectivement, qui est une personne très très proche de nous, avec qui on a déjà fait plusieurs dates et qu'on est super content parce qu'on n'avait encore jamais joué avec Cat White en duo au Café des Champs Libres. Donc oui, c'est toujours un plaisir. Et au hasard, en fait, on ne les connaît pas, mais on est quand même ravis de jouer avec eux parce qu'on a oublié de citer quelqu'un quand même de très très important dans la vie de Atrium. C'est Margoulins Productions, la boîte de production qui nous accompagne et qui nous ont permis de creuser notre projet aussi d'une manière plus stratégique et plus en question de résidence et puis de lieu et de contact avec des gens du milieu. Et donc Waza fait partie de leur comment on dit,
de leur catalogue,
de leur catalogue,
si
exactement.
On peut dire ça.
Donc voilà, on les retrouvera le vendredi 7 au Vauban.
On vous quitte maintenant avec ce titre Coffin Fish dont vous me parlerez un petit peu. Moi, j'ai vu juste une vidéo comme ça sur un canapé, c'est une petite vidéo, une story comme ça, vraiment très 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 courte. Ouais. Ça parle de quoi, cette chanson ?
Eh ben, ça parle d'une île au large de la Norvège. C'est un archipel d'îles qui s'appelle les îles de Svalbard. Et en fait, c'est une île qui dépend de la Norvège et sur laquelle il est interdit de mourir. Et oui, et il est interdit de naître. Et en fait, à l'époque, les gens enterraient leurs morts sous la glace. Mais sauf qu'avec la montée des eaux et la fonte des glaces, c'est plutôt pas recommandé d'aller se baigner là-bas, parce que bah, leur mort et leur passé se font engloutir par la mer.
Merci pour cette explication de texte avant qu'on l'entende. Voilà, vous avez vraiment le contexte. Et vous écoutez maintenant Atrium, longue vie au groupe bien sûr, et puis belle sortie de l'eau de cet album-là. Merci. Nous sommes à l'orée de la 5e édition du Braise Beer Session. C'est les 7 et 8 novembre à l'ancienne brasserie Saint-Hélier. On l'appelle la grande halle de la brasserie Saint-Hélier. Vous voyez à peu près où ça se trouve, hein, juste au-dessus du pont Saint-Hélier, près de la gare. Bon, c'est par là. Et c'est un lieu mythique, évidemment, et qui va être beaucoup mieux utilisé avec la Braise Beer Session que quand ils fabriquaient des bières Kronenbourg, un peu moins bonnes quand même, je peux le dire, vraiment, pour les avoir goûtées, que tous les brasseurs qui vont être invités lors de cette édition. On va en parler avec des membres de l'association Braise Hop. Ludmila, tu fais partie de cet asso-là ?
Tout à fait, Yann.
Bonjour, Ludmila.
Bonjour, Yann. Bonjour à tous, à tous les auditeurs de Canal B.
Qu'on appelle aussi DJ Cup of Tea et que vous retrouvez le lundi à 18h avec son compère Eric Delsar dont Take It or Leave It. Mais là, c'est pas pour parler de rock'n'roll.
C'est pour parler de bière.
Pour parler de bière. Qu'est-ce qui t'a motivé à devenir la présidente de l'association Braise Hop ?
Alors, qu'est-ce qui m'a motivé ? On m'a proposé aussi, hein, et je m'intéresse à la bière artisanale depuis quand même quelques années. J'ai découvert la bière artisanale au Saint-Malo Craft Beer, qui est un autre festival de bière artisanale indépendante qui a lieu au mois de mars. J'ai rencontré plein de belles personnes là-bas.
Notamment une qui est à ta gauche.
Qui est à ma gauche, tout à fait, Xavier.
Bonjour Xavier.
Bonjour Yann.
Et voilà, et puis là je me lance dans cette aventure associative de découverte de bière artisanale bretonne.
Et un ami rencontrant un autre ami, eh bien Xavier nous fait rencontrer Florian de la brasserie Choc, bonjour.
Bonjour à tous.
Une jeune brasserie, une vivacité assez incroyable dans les brasseries indépendantes, artisanales depuis un petit moment maintenant. Comment toi t'es rentré dans la brasserie artisanale indépendante ?
Bah, je pense comme beaucoup de mes confrères maintenant là, qui sont lancés dans le milieu de la brasserie artisanale. Je pense que c'est d'abord par le brassage amateur en fait, hein. Un petit kit de brassage, on met les mains dans le cambouis et on démystifie un petit peu tout ce qui est le processus de fabrication justement de la bière. Et c'est comme ça qu'on tombe un petit peu dans la marmite, hein. Je pense comme pas mal de mes confrères, c'était comme ça pour moi en tout cas.
Tu peux confirmer, Xavier, que ça s'est passé à peu près comme ça pour beaucoup des invités, aussi bien au Saint-Malo Craft Beer qu'au Braise Beer Session.
Oui, c'est souvent le cas. Ça a été énormément le cas. un peu moins maintenant, mais c'est vrai que beaucoup ont commencé comme ça, en brassage amateur. Ils ont commencé à faire de la cuisine dans leur petite cuisine, on va dire ça comme ça. Ils ont, avec des grosses marmites, ils ont été piqués, donc ils nous font des belles choses maintenant.
Je ne peux pas vous renvoyer vers un reportage que j'avais fait avec un voisin à moi qui s'appelait Florian, et qui s'appelle toujours Florian d'ailleurs, qui n'est pas le même, et qui faisait de la bière en appartement. Alors évidemment, il peut y avoir quelques déconvenues, comme des bouchons qui explosent sous le lit, comme ça. Ça peut arriver. Au début, Ça t'est arrivé, Florian, dans tes premières tentatives ?
Et je vais pas me la péter, mais j'ai eu la chance, en fait, quand même, hein, de avoir peu de problèmes sur mes premiers tests. Forcément, comme beaucoup, y en a eu quelques-unes qu'il a fallu jeter. Mais des explosions, non, pas trop, finalement.
Ça ne devrait pas arriver non plus, hein, c'était 8 novembre, des explosions de bouteilles comme ça, non.
Des explosions de joie.
Ah, ça, c'est obligatoire, c'est obligatoire. Cette nouvelle édition du Brace Beer Session, est-ce qu'elle nous fait découvrir de nouvelles brasseries, de nouveaux brasseurs, de nouvelles saveurs de bière, Xavier ?
Alors, ouais, alors cette année, c'est vraiment une année particulière, puisqu'il y a quand même eu... 2022-2023, il y a eu des petits jeunes qui se sont lancés en Bretagne, et cette année il y a un bon renouveau de brasseries qui viennent des départements limitrophes et d'Ille-et-Vilaine aussi. Florian en est un bel exemple. Donc il a fallu faire un peu de place, il a fallu que les anciens cèdent un peu les places pour des nouveaux, et c'est vrai qu'on va avoir des brasseries qui ne sont jamais venues à Rennes, et c'est vraiment chouette de pouvoir les découvrir les 7 et 8 novembre.
Choc est toute jeune comme brasserie.
On a fêté notre premier anniversaire au mois de septembre dernier, et effectivement pour l'édition précédente, c'était un petit peu tout juste, mais on est très content de participer à cette nouvelle édition et d'être présent ici à Rennes pour présenter et nous faire découvrir encore. Il y a encore plein de monde, je pense, qui nous connaissent pas.
Choc est basé à Pont-Réan, c'est bien ça ?
C'est bien ça, entre Bru et Guichin, au bord de la Vilaine.
Alors comment on trouve sa place, alors que dans le bassin rennais, quand même, quand on peut compter Vieux-Singe, Oblique,
Scumène,
Torpène, plein d'autres, ça va être dur de faire sa marque dans le territoire, quand même.
Avec mon ami et associé Pierre, avec qui on a monté la brasserie, on a eu une grosse réflexion. Nous, c'est d'abord une passion pour le produit qui nous a lancé vers ça, plus qu'une raison quand même de monter un business et tout. Mais on a vu, on a étudié, on a regardé un petit peu ce qui se faisait, et effectivement, ce qu'on voit, c'est une évolution du modèle des nouvelles brasseries, en fait, hein, qui était plus traditionnellement juste un lieu de fabrication et qui utilisait les réseaux de distribution assez classiques des caves et des bars. Et nous, on a fait le choix d'avoir un lieu où on pouvait accueillir directement du monde sur place, avec ce qu'on appelle maintenant une taproom, en fait, hein, c'est un bar attenant à l'atelier production où les gens peuvent venir déguster les bières qui sont produites sur place.
Une taproom, on pourrait appeler ça une salle à bec.
Oui,
si on voulait faire une traduction un peu bizarre mais amusante. Alors c'est une ironie totale, finalement, de se retrouver dans l'ancien bâtiment des brasseries Cronenbourg pour proposer Brace Beer Session, parce qu'on a pu discuter un petit peu avec Florian avant de commencer la vraie interview ici dans le Grand Tout. C'est un peu à cause de grosses structures comme Cronenbourg qu'il a fallu attendre longtemps avant que des petites structures revoient le jour, en fait.
C'est ça, sans rentrer trop dans les détails, hein, peut-être historiquement, après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu une grosse concentration et regroupement au niveau des grosses brasseries industrielles. Il aura fallu attendre très longtemps pour retrouver ce qui existait en fait à la fin du 19e siècle, hein, avec plus de 2000 brasseries en France. Hein. Maintenant, on est à 2500 brasseries. On en trouve partout.
Il y a plus de brasseries aujourd'hui qu'il n'y en avait il y a 100 ans, alors que c'était énorme quand même il y a 100 ans.
C'est ça. Après, c'était très concentré aussi, hein, dans des territoires historiquement brassicoles. Hein.
Plutôt l'Est ?
L'Est et le Nord de la France, hein, beaucoup limitrophes avec la Belgique et l'Allemagne. Mais maintenant, on en trouve sur tout le territoire français et c'est chouette.
Moi, je ne vais pas vous nommer toutes les brasseries à l'affiche. Je vais peut-être laisser Xavier le faire, ou peut-être on ne va peut-être pas les citer toutes, parce qu'il y en a quand même pas mal. Pas 2500, il ne faut pas exagérer tout de même. Mais,
il y en a 20.
Une vingtaine.
Il y en a 20 et c'est un mixte entre des brasseries connues et d'autres pas connues du tout. Des brasseries connues qui ne sont jamais venues à la Brace Beer Session aussi, donc il a fallu faire une sélection avec l'équipe. Et c'est tant mieux. Et donc en nouveauté, bien sûr, on a Choc de Pont-Réan, mais on va avoir Octa de Cloire Carnouette, Dimsel des Côtes d'Armor, Soaven de Santec, la brasserie Nautil de Loire-Atlantique, qui est déjà bien connue, mais ça faisait longtemps qu'elle était venue à Rennes. Donc on a essayé de créer un mix là, pour trouver de l'effervescence et que tout le monde y trouve son compte. monte, les visiteurs en premier, et puis les brasseuses et les brasseurs qui sont là, puisque c'était aussi un événement de rencontre entre eux.
Alors j'aimerais bien, Florian, que tu nous parles un petit peu de quel type de production vous allez amener au Brace Beer Session, des bières qui vont sur quel type de goût.
Il y a toujours forcément des effets de mode au niveau de la bière, et on est encore actuellement sur l'effervescence au niveau des bières houblonnées, des IPA. Dans ce cadre, on a réalisé une bière en collaboration avec une autre brasserie rennaise qui s'appelle Smash, qui est aussi présent pour cette édition. Bon, je vais dévoiler un petit peu,
tout petit peu,
le suspense, mais ouais, on a fait un exercice un petit peu plus compliqué, qui est de faire une bière avec peu d'alcool. Ça s'appelle une micro IPA, donc à 2,8% d'alcool. Donc c'est toujours plus dur de travailler un peu sur des bières comme ça, un petit peu moins alcoolisées, tout en gardant toujours une belle intensité en termes de goût et des belles saveurs en bouche. Donc c'est ça qu'on présentera en exclusivité, en tout cas sur cette nouvelle édition, et avec nos amis de Smash.
La composante la plus importante, j'ai l'impression, quand on fabrique de la bière, c'est ce côté chimique, peut-être, je veux dire, la chimie, hein, les mélanges de divers produits qui vont faire que ça va fermenter de cette manière ou d'une autre. Il a fallu longtemps de tests avant de la faire, cette bière plus légère.
C'est marrant, je ne sais pas si tu étais au courant, mais en fait, je suis chimiste, et Pierre aussi, en fait, on est tous les deux docteurs en chimie, donc finalement c'est un peu la mise
en pratique
de toutes nos connaissances un petit peu pour le meilleur de la bière, et forcément on peut avoir des parallèles, hein, entre ce qu'on faisait avant au laboratoire et maintenant ce qu'on fait dans le grand laboratoire, on va dire, de la brasserie. On a fait appel aussi à notre expérience et après à nos connaissances et à ce qu'on a effectivement testé sur d'autres recettes pour mettre en place celle-ci. Mais c'est pas la plus dure, on va dire, qu'on aura mise à développer. Je pense que tout ce qui a été fait en amont sur le démarrage de l'activité et des premières recettes de production et la mise en échelle, on va dire, de ce qu'on testait à petit volume, c'est ça surtout qui aura mis le plus de temps. On a passé plus d'une année avec Pierre pour tester plus d'une centaine de recettes avant de valider les premières recettes. Et après, je pense quand on commence à avoir un petit peu de l'expérience sur l'utilisation du matériel, on peut plus facilement, on va dire, développer de nouvelles recettes.
Il y a ce vieillissement en barrique, là, vous mettez en avant, Xavier de Brace Beer Session. Qu'est-ce que ça change finalement ?
Ben ça, ce sont des bières, des styles qui avaient disparu et qui ont été remises au goût du jour par les brasseuses et brasseurs, parce que ça, on va sur d'autres territoires gustatifs et on va utiliser bien sûr une base de recette, hein, une base ou une nouvelle recette, mais on va aller plus loin encore avec en bonifiant ce breuvage, ce liquide, en le faisant séjourner dans des barriques qui ont accueilli une autre boisson, ça peut être rhum, whisky, vin jaune, enfin bref, et ça va apporter des saveurs nouvelles, et on va aller comme ça sur on va répondre à une attente de consommateurs qui veulent vraiment goûter des choses qui les percutent et qui ont envie d'explorer de nouveaux territoires, gustatif. Mais je ne sais pas si Florian ont déjà commencé à tester ce genre de choses.
On a fait un premier test effectivement dans une barrique de chou chêne. Alors après, à voir, sur une bière ambrée. Mais tout reste à faire. C'est des choses qui prennent du temps. Alors déjà, de manière générale, hein, la production de la bière, il faut déjà être patient, parce que c'est presque un mois ou voire plus, ça dépend, pour avoir une bière qui soit consommable. Et donc quand on commence à faire de l'élevage en barrique, là, on parle de mois en fait, hein, presque d'années même, voilà, dans certains cas.
Vous serez percuté par de nouvelles saveurs, mais faites attention quand même, hein, pas se faire percuter trop fort. Bon, les 7 et 8 novembre à l'ancienne brasserie Saint-Hélier, hein, c'est ce beau lieu qui sera utilisé pour cette nouvelle édition du Brace Beer Session. Vous retrouvez toutes les infos, hein, sur les comptes Facebook et Instagram Brace Beer Session. On va terminer en musique. Merci Florian, brasserie Choc à Pont-Réan. Merci Xavier.
Dans notre démarche de dépenses énergétiques, on a lancé depuis quelques années un programme comme quoi le verre de la Brace Beer Session est consigné. Donc je rappelle aux auditeurs de venir avec une petite pièce de 2 € dans la poche, parce que c'est un verre en verre, il est sérigraphié à la Brace Beer Session. Ça nous évite tous les ans d'en relancer une fabrication, et c'est tant mieux.
On va terminer en sélection locale, voire régionale, on va dire, peut-être choisie par Cup of Tea, par Ludmila, la présidente de l'association Braise Up. Qu'est-ce que tu nous proposes pour terminer ?
Eh bien, je propose Mouchari. Donc, c'est le mélange de deux groupes exceptionnels bretons, Suburbs de Saint-Brieuc et le rappeur Reigns de Brest, qui donc ont décidé de former ce super groupe.
Et c'est le Brest même Mambo.
Exactement.
Merci Florian, Ludmila et Xavier, et bonne
merci
édition du Brise Beer Session.
Merci, au revoir.
Buisson, bouteille, parvis, nitro, vidange, parking, patron, tramway, lundi, nuit blanche, excès, la pluie. Cruise quand je suis dans ma très belle Twingo. Cruise quand je suis dans ma caisse. Cruise quand je danse le Brest même bon. Cruise quand la nuit est claire. Fillon, vos caisses. Le Pen sont des sales fils de p***. J'y pense tout net. Quand je freine devant le bar PMU le ciel. Chez nous, s'éteint aussi vite qu'il s'allume l'inverse. Le vent, je m'en tape, j'ai des trucs de prévu. J'passe récupérer Mick. Pas de January Dry. Toujours les mêmes techniques. J'm'embrouille avec le videur. Et c'est le videur qui gagne. Cruise quand j'suis dans ma très belle Twingo. Cruise quand j'suis dans ma caisse. Cruise quand je danse le Brest même bon. Cruise quand la nuit est claire. Cruise quand j'suis dans ma très belle Twingo. Cruise quand j'suis dans ma caisse. Cruise quand je danse le Brest même bon. Cruise quand la nuit est claire. J'aime quand la nuit est claire. On voit les ombres déjà. J'aime quand la nuit est claire. On peut dire des choses aux gens. Dans les rues sur le pont. Oh il pleut encore. Mouchari. Ah! Cruise quand je suis dans ma très belle Twingo. Cruise quand je suis dans ma caisse. Cruise quand je danse le Brest même bon. Cruise quand la nuit est claire. Cruise quand je suis dans ma très belle Twingo.
C'était un titre de Mouchari choisi par Ludmila, soit DJ Cup of Tea, présidente de l'association Braise Up qui organise la Braise Beer Session numéro 5 ce week-end, vendredi et samedi à l'ancienne brasserie Saint-Hélier. On termine l'émission avec une rencontre, encore une fois aujourd'hui, après celle de Marie Davidson mardi dans l'émission. Aujourd'hui, c'est deux des musiciens de modèle actrice. Cole Hayden, le chanteur, et puis Ruben Heldlauer, le batteur, qui répondent aux questions de Pierre Maël, toujours autour de ces questions de création, de performance live et de transmission.
Fall into flight, tremors, shouldering ground.
On va discuter avec Cole Hayden et Ruben Heldlauer de leur processus créatif, tout d'abord dans le groupe Modèle Actrice. Comment abordez-vous la création d'un morceau et comment travaillez-vous les sonorités, par exemple sur le morceau Divers, présent sur votre album Dog's Body?
Je dirais que ce morceau en particulier s'est construit autour du travail du son de Ruben qui utilisait un micro de contact sur sa basse et à travers des pédales. Donc on a découvert ce son simplement en répétition et on avait ses accords de guitare en tête depuis un moment quand Jack écoutait énormément Bach. La récompense était vraiment d'arriver à la fin du morceau avec ce son de basse que Ruben avait trouvé. C'est là qu'on a su que le morceau était fini. Et les paroles parlent en quelque sorte de ce que ce morceau m'évoquait. Je pense que c'est comme ça que nous composons la plupart du temps. Ils ne sont pas forcément composés sans intention, mais on tourne autour des idées en jammant jusqu'à ce qu'on atteigne une sorte de transe et que le chemin s'ouvre lentement devant nous.
slowly to us, it's not, you know, that dissimilar from other people.
C'est peut-être similaire à d'autres groupes, mais pour nous, c'est vraiment basé sur le fait de jouer des morceaux pendant une longue période et de comprendre ce que vont être les arrangements et les mélodies. On abuse souvent du temps pour composer.
Songwriting process is time intensive, I would say, for us.
Yeah. And then I think also to speak to the middle part of Divers.
L'idée au milieu de Divers vient aussi du fait qu'on voulait que ça ressemble au son d'un vieux moteur qui accélère, ce qui a aussi affecté d'autres morceaux où on peut entendre ce genre de son mécanique ou d'ambiance qu'on a voulu capturer et ce qui a transformé des jams en morceaux. Et on a aussi pas mal joué avec l'idée de sonorité pas forcément musicale.
Yeah, it might start in like a conceptual.
Ça commence donc avec un concept, puis après on se pose la question de comment on peut répliquer cette idée ou comment on peut s'en approcher le plus possible. C'est un mélange d'échecs, de succès qui nous mène au résultat final.
Successes and failures that get us to the final place.
Et au niveau de la performance, qu'est-ce que les concerts vous apportent et est-ce que vous préférez jouer sur des grandes scènes ou plutôt en petit comité ?
Personnellement, je préfère les plus grosses scènes qui me permettent d'avoir plus de place pour m'exprimer et danser, mais ça ne dépend pas que de moi. Ce qui est important dans nos concerts, c'est aussi les interactions qui sont uniques avec chaque public. Il y a du bon à jouer sur des grandes scènes comme sur des petites, c'est juste pas la même chose. Lors d'un plus petit concert, je peux interagir plus personnellement et intimement avec la foule, alors que sur une plus grande scène, les éléments comme les lumières, la production, la grandeur du lieu permettent de donner une performance dramatique, voire mélodramatique, au public, contrairement à un concert dans un sous-sol, comme nous l'avons fait au début, où le public fait vraiment partie du spectacle, et c'est lui qui décide aussi de s'il est réussi ou non.
Quelle marque aimeriez-vous laisser derrière vous avec votre musique ou sur le public qui assiste à vos concerts ?
I'd say, especially with coming to our shows, we want people to leave our shows feeling more comfortable.
Je dirais surtout qu'en venant à nos concerts, on aimerait que les gens se sentent plus à l'aise avec eux-mêmes, avec les énergies, les émotions qu'ils peuvent ressentir pendant ce moment-là, qu'ils se connectent avec eux-mêmes et qu'ils sortent heureux en partant. Et aussi d'un point de vue des paroles, et concernant mon expérience d'homme gay, j'espère qu'il y a quelqu'un qui a besoin de se sentir vu ou représenté dans la musique, ou qu'il ne l'a pas senti avant de découvrir notre musique, eh bien qu'il puisse se reconnaître et se sentir moins seul.
Who needed to feel seen or reflected in music that if they hadn't before discovering ours, that maybe they could see themselves in what I'm talking about and feel a little less alone.
Yeah, I mean, I think definitely it's like we really want people to come away with a sense.
Oui, à nos concerts, on veut vraiment ressentir un sentiment de communauté et c'est super gratifiant pour nous, surtout quand on va dans de plus petites villes aux États-Unis ou dans le reste du monde. De voir ce sentiment fort chez tout le monde et de favoriser des lieux où il n'y a pas forcément énormément de concerts, où les tournées ne s'arrêtent pas souvent.
Most tours has felt really important recently.
Merci beaucoup à Cole Hayden et Ruben Radlauer de Modèle Actrice que vous pouvez retrouver ce week-end à l'Antipode pour l'événement Cool Sing.
Just got back from overseas. Spent a lot of time there lately. Went out last night, my voice was raspy. Had lots of unfamiliar candy. I met a guy in Copenhagen. He was gay but had a girlfriend. I met a guy in
I settle. If we migrate, you can get the next one. I'll be back in a sec, but I'm grateful. It was worth it, skipping rehearsal. I'm such a fucking bitch. Girl, you don't even know. Just imagine me absolutely soaked, dripping head to toe in Prada Sport, yeah. You could call me a small business owner, living in America while trapped in the body of an operatic diva. I'm such a soprano. Shit, will I settle? If we migrate, you can get the next one. I'll be back in a sec, but I'm grateful. It was worth it, skipping my hustle.
C'était le titre Divers par Modèle Actrice à retrouver samedi soir à l'Antipode dans le cadre de cette deuxième soirée de Cool Thing numéro 2. Toutes les infos sur antipode-rennes.fr. Nous, on se retrouve vendredi. On parlera du mois du doc avec Agnès Frémont, chargée de programmation pour Comptoir du Doc. À bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao! Something more.